Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder des questions de composition de l'image avec un mode de composition tout à fait particulier que l'on peut observer de manière assez systématique dans bon nombre de peintures d'un peintre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui est Pierre Bonnard. Donc, à l'appui de ce que je vais vous raconter, je vous diffuse un ensemble de reproductions de Bonnard, une petite quarantaine, je pense qu'il y a 38 images, et je vais vous en proposer un commentaire au fur et à mesure. La première que vous voyez, c'est la maison à tourelles de 1888. C'est une peinture qui est déjà dans certaines des caractéristiques de Bonnard, et notamment dans le fait d'utiliser des couleurs un peu forcées. On a les tuiles des toits bien orange, des effets sur l'herbe qui est au premier plan, et notamment quand elle prend le soleil ou elle jaunit, on voit comment il a rajouté du jaune au pinceau. Voilà. Ça, c'est assez typique de Bonnard, y compris le jeu de lumière. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est donc la question de la composition et de ces compositions avec appui. Là, dans l'œuvre que nous avons là sous les yeux, la maison à tourelles, eh bien, il y a tout ce bandeau du premier plan qui est donc de l'herbe bien verte de fin de printemps. Et ça, ce bandeau assez rectiligne finalement, c'est ce qui, à mon sens, constitue un appui dans la composition. Alors, si on n'avait qu'une seule peinture faite comme ça, j'en tirerais pas de conclusion. Mais ici, la particularité, c'est que ça se répète très souvent dans la peinture de Bonnard. Alors là, on est vraiment dans les débuts de sa carrière en 1888. Hein, je l'ai dit, c'est encore un Bonnard, un Pierre Bonnard qui est dans la logique impressionniste. Et on va voir comment il utilise diversement, et pas seulement en appui sur le bas de la composition, des effets comme cela, de bandeaux, de marges, qu'il va systématiser. La deuxième image, la loge, donc qui est une peinture figurant une loge d'opéra, dont on voit les décors un peu surchargés et dorés sur la droite de l'image, et aussi un rideau sur la gauche. Là, vous voyez dans cette composition comment, de part et d'autre, sur les deux côtés, il y a des éléments peints qui participent modestement de la figuration, puisque on reconnaît immédiatement les personnages, ou du moins des personnages, mais beaucoup moins facilement le rideau rouge-violacé de gauche et comment dire, ce bandeau doré, stucqué, c'est-à-dire travaillé dans une sculpture de plâtre doré, si vous voulez, qui fait la partie droite de l'image, et que l'on pourrait à première vue croire être finalement un bout du cadre, comme si la photo avait été mal cadrée au moment de photographier l'œuvre. Donc, ça n'est pas le cadre de la peinture, c'est bien un élément peint qui montre un élément de décor de cet opéra. C'est ce qui nous permet de comprendre que l'on regarde une loge dans son contexte décoratif à l'intérieur de l'opéra. On peut aussi remarquer dans cette œuvre de 1908 que le personnage masculin debout, qui à la main gauche là, tient des jumelles de théâtre pour mieux voir ce qui se passe sur scène, eh bien, ce personnage, on ne lui voit pas le haut de la figure. Ça, c'est aussi des choses qui pourront se produire chez Bonnard, mais ça n'est pas le premier peintre à couper dans le vif de ses personnages. Si vous allez regarder beaucoup de peintures impressionnistes, eh bien, vous allez vous rendre compte que Degas, par exemple, fait souvent cela sur des personnages ou sur des chevaux, sur des danseuses, etc. La troisième image que nous avons, l'après-midi bourgeoise de 1900. Une famille dans son jardin, devant sa maison un peu cossue. On voit, c'est une maison avec un étage, la façade qui a été bien enduite avec une chaux colorée, là. Eh bien là, nous voyons tout à fait sur la droite, et à peine perceptible, il faut y être attentif, un petit rebord qui est marqué un peu comme s'il était rayé sur la droite, hein, mais c'est tout mince. En réalité, c'est le mur d'un autre bâtiment. Il faut s'imaginer que c'est le mur d'un autre bâtiment, et ça va pas forcément de soi, parce que on se demande là encore ce que c'est, si c'est un défaut de cadrage du photographe qui aurait pris le cliché de cette peinture. Voilà, là on est bien dans cette logique de mettre d'un côté de l'image, voire même deux côtés dans l'image que nous avons vue précédemment avec la loge. Là, nous avons cette petite chose tout à fait ténue, hein, c'est tout mince, mais ça fait toute la hauteur de la peinture, hein, qui nous permet, avec simplement l'idée d'un mur de, je ne sais pas, d'une grange par exemple, d'une remise ou d'une écurie qu'il y aurait en face de la maison, eh bien, ça nous amène à fermer la composition. Et les compositions avec appui chez Bonnard, ça sert à ça, ça sert à fermer la composition. Finalement, des effets comme ça de lignes qui permettent de structurer la composition ou de la limiter, eh bien, on pourrait en chercher d'autres dans cette image. On va avoir par exemple le volet de la porte, petite porte-fenêtre qu'il y a sur la maison. Là, on a le volet qui fait une petite verticale grise, par exemple. On a aussi dans les jeux de verticale, on a par exemple la descente d'eau en zinc qui descend du toit là, et qui fait une ligne grise dans le mur jaune. On verra ponctuellement l'usage des gouttières dans d'autres peintures de Bonnard pour assurer ces verticales qui coupent, qui bordent l'image. Saut en arrière, 1892, la parade de la foire. Là, c'est un moment où Bonnard visiblement cherche des effets colorés un peu différents, une manière de peindre un peu plus libre que celle qu'on a pu voir dans les autres peintures, là. Et là, il a cette grande, ce grand pilier noir là. Et puis sur le côté droit, nous avons aussi successivement des éléments peints rajoutés, rouge et jaune plus à droite, qui permettent de visuellement caler la composition pour recentrer le visage sur le clown qui est au centre de l'image et qui est le point focal des personnages que l'on a dans le bas de la composition et qui regardent tous le spectacle pendant la parade ou la foire avec ce clown. Cinquième image. On s'y retrouve bien, elles sont numérotées. Cinquième image, le corsage à carreaux. Alors là, deux choses à remarquer, ou trois. On va passer vite là-dessus, c'est le chat qui est sur la table et qui, d'un coup de patte, essaye d'attraper la même chose que la maîtresse de maison, là, qui, elle, mange avec sa fourchette, mais le chat essaie, d'un coup de patte, de récupérer un peu de nourriture pour elle. Pour lui, je ne sais pas si son chat est une chatte. Alors, deux choses à remarquer en dehors de l'animal, c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui aura un impact chez d'autres peintres plus tard, c'est la façon dont le corsage à carreaux, comme il est dit, est travaillé avec des lignes horizontales, verticales, et les plis du vêtement sont uniquement indiqués par les coups de pinceau gris-brun là qui viennent donner du mouvement, mais le mouvement il n'est pas dans la reproduction à l'identique d'un tissu à carreaux qui serait un peu froissé, plié, etc. On n'a pas du tout ces effets-là. C'est très rigoureux comme quadrillage. Même s'il y a quelques décalages, globalement, on est dans horizontal vertical, ce qui n'est pas le cas si vous regardez vos amis qui auront une chemise à carreaux et dès qu'ils bougent, ça prend un autre mouvement. Eh bien là, cette solution, on va la retrouver chez d'autres peintres jusqu'au milieu du XXe siècle. Finalement, c'est des choses qui se retrouvent ponctuellement dans la peinture. Je pense par exemple à Léon Jouhaud, qui est un peintre et émailleur de Limoges, qui a fait des milliers, peut-être 2000 peintures en émail cuit sur cuivre, et qui a utilisé ces effets-là dans un certain nombre de ses compositions. Par parenthèse, le fait de représenter les tissus à carreaux de cette manière-là, géométrique, et on se fiche pas mal des courbures réelles que ça prend sur le corps, c'est celle qui a été adoptée par quantité de dessinateurs de bandes dessinées. Alors ici, nous avons à nouveau un petit élément qui vient caler la composition et dont on n'a pas forcément besoin au niveau purement de la compréhension de la scène, c'est le petit bandeau vert que nous avons au fond. Comme si on avait une boiserie brune et un peu de papier peint sur le côté gauche, là, mais juste une petite lamelle de papier peint qu'on voit au-dessus de l'épaule du corsage à carreaux. Et ça encore, ça vient marquer une limite et ça fait un petit point coloré qui attire l'œil et qui nous permet de comprendre que là, la composition s'arrête et notre œil peut continuer à tourner. Et ça maintient notre regard à l'intérieur. Alors que si vous portez le regard sur le côté droit de l'image, où il n'y a pas ce genre d'arrêt, eh ben vous n'avez pas cet effet de renvoi du regard qui est celui assez typique de ces compositions avec appui chez Pierre Bonnard. Ensuite, la promenade au lac Bois de Boulogne de 1900, qui reprend un type de composition classique avec les arbres alignés, des gens qui font la promenade en dessous. Ça, on a trouvé ça chez des peintres, on va dire, pré-impressionnistes, dès les années 1820 dans la peinture française. Là, vous avez des effets divers. Vous avez l'effet du trottoir en bas. Donc, qui vient mettre une démarcation et une ligne horizontale entre le niveau de la rue et le niveau du trottoir ou du promenoir où sont les dames et les enfants que l'on aperçoit. Et dans cette première partie en bas, il n'y a rien d'autre que la signature de l'artiste et deux chiens à peine esquissés par quelques taches de pinceau, là, qui viennent animer cet espace-là. Mais il n'y a pas que ça pour faire appui. Il y a au-dessus des arbres, cette bande curieusement vert pâle là, qui vient vert mousse, qui vient aussi stabiliser la totalité de la composition. C'est pas un ciel qui s'ouvre avec le bleu du ciel, quelques nuages, un peu de légèreté. On a un ciel gris sous le bandeau d'arbres taillés. Mais au-dessus, ce ciel verdâtre, ça appuie sur la composition. Visuellement, on peut trouver que c'est un peu contraignant, un peu lourd. Alors peut-être que le ciel est lourd avec cette couleur verte inattendue, mais ça sert à ça. Ça sert à maintenir le regard en dessous. Alors, numéro 7, eh bien, on retrouve des effets géométriques. Avec à nouveau les chiens au niveau du trottoir. Donc on a là exactement le même effet. Accentué par la géométrie donnée par les façades avec leurs différentes fenêtres et différents éléments qui les structurent, ces façades. Donc là, ça pourrait presque être une préfiguration de ce que sera dans la peinture abstraite toute la peinture du groupe néerlandais de Stijl, représentée par sa figure emblématique, Mondrian. Mondrian qui va reprendre ce genre de structuration, mais d'une manière parfaitement non représentative, non figurative, abstraite si on préfère. Je vous engage à aller regarder chez Mondrian d'ailleurs comment, au fur et à mesure que dans les années, on va dire entre 1905 et 1911, il fait évoluer sa peinture, petit à petit, les éléments de la réalité qu'il peint se dissolvent et on en arrive à quelque chose qui est purement de l'abstraction géométrique. Mais ça se fait par petites touches à partir de, au départ, une nature morte ou un paysage, un arbre, etc. Un pommier, il a beaucoup travaillé sur les pommiers ou sur une jetée sur la mer. Tout ça, ça se voit très bien chez Mondrian, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Numéro 8, le cheval de fiacre. On retrouve des compositions dans lesquelles des éléments sont coupés, comme je le disais précédemment à propos de la peinture de Degas, par exemple. On a des effets comme ça qui sont rajoutés avec l'ombre au premier plan, cette ombre dorée-là, qui est en réalité sans doute l'ombre d'un bâtiment auquel nous tournons le dos en regardant les scènes qui sont devant nous. Cette ombre qui explique que ce cheval soit si brun, noir, et le personnage féminin qui est à côté aussi. Hein, on voit cette femme en mouvement avec son parapluie là, qui va traverser la rue et qui dans 2 secondes sera au soleil. Pour le moment, tout le monde est à l'ombre. Et en même temps, on a le bandeau en bas, on retrouve l'effet de trottoir, et en haut, on va aussi retrouver un effet au-dessus des magasins, avec les façades des magasins qui sont plutôt sombres, sauf quand il y a des toiles pour les protéger du soleil. Et juste au-dessus, la rangée de fenêtres plus en lumière. Ça aussi, ça nous fait une composition avec des niveaux qui font des strates, des horizontales, et qui permettent de bloquer la composition. On retrouve cet effet-là d'une manière amusante dans le numéro 9 qui est la place de Clichy de 1912 avec ici eh bien, simplement le bandeau publicitaire de la brasserie. Est-ce qu'on peut lire son nom? Ah oui. Souper, brasserie. Ah ben on peut venir souper dans cette brasserie, donc manger tard le soir après le cinéma ou le théâtre. En 1912, oui, il y a déjà du cinéma. Donc là, on a des effets très colorés comme on a couramment chez Bonnard, en côté, dans les couleurs vraiment ancrées dans la tradition de l'impressionnisme, même si il y a peut-être un peu de décalage et d'outrance dans les couleurs, mais Monet nous avait déjà habitués à ça depuis les années 1870. Hein. Là, ce qui nous intéresse, c'est que le bandeau du haut qui nous fait la composition avec appui est aussi couvert d'une inscription qui, bien sûr, est à l'envers, puisqu'on n'est pas du côté où on est censé regarder l'inscription, les gens qui sont censés la voir, cette inscription, ce sont les gens qui sont en face de nous dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose avec quoi on peut jouer. C'est-à-dire que si on voulait faire des ateliers de peinture, on pourrait très bien utiliser des choses comme ça, des effets, comme si on regardait à travers la vitre d'un bistrot sur laquelle il y aurait quelque chose d'écrit. C'est ce cas. Parce que ce que nous avons en face de nous, de l'autre côté de la rue, c'est bien écrit dans le bon sens, puisque on voit au troisième étage de l'immeuble qui est juste en face qu'il y a Lucie qui travaille dans la mode. Vous voyez Lucie, mode, écrit en jaune sur le bleu. Bien, eh bien nous arrivons à la 10e image, qui est un paysage, le premier paysage que je vous montre, la première fois qu'il n'y a pas du tout de personnage dans les œuvres que nous voyons. Là, c'est au premier plan, simplement, cette bande grise, hein, qui est finalement le quai. On voit à peine le bateau à voile qui est en dessous. On voit des perches là qui sortent d'on ne sait où, de part et d'autre de la butte d'amarrage qu'il y a sur la gauche de l'image. Voilà. Et comme on l'a déjà repéré, Bonnard vient signer dans la partie qui fait la composition avec appui quand elle est dans cet appui quand il est dans le bas de l'image. C'est l'endroit où Bonnard vient signer. On voit d'autant mieux sa signature, son nom. Alors la 11e image est une photographie de Bonnard prise avec ses enfants devant sa maison de campagne. Et on voit comment le chien qui vient vers nous, là, s'avance d'une zone de soleil vers une zone d'ombre, ce qui nous fait aussi en appui et une limitation du champ visuel, comme on a pu le voir dans des peintures. La 12e, Robert de profil marchant, une photo de 1892 montrant un des enfants de Bonnard. Et là, on voit non seulement des effets d'ombre au premier plan, qui permettent aussi de circonscrire, limiter la composition, mais il y en a bien d'autres de ces éléments qui font composition avec appui. Il y a en haut à gauche le mur du jardin, là, hop, qui nous permet d'arrêter le regard. Et sur la droite, vous avez, alors ça c'est super important, on a l'ouverture d'une porte. Et on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Alors ça, nous allons nous en rendre compte dans l'œuvre de Bonnard, ça se retrouve extrêmement souvent. Le fait d'utiliser une porte et sur cette, de n'en montrer que le montant ou l'huisserie, et on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, mais ça permet d'arrêter la composition, de bloquer. Ça, il l'utilise très souvent. Dans la peinture, on pourra le retrouver. Dans la 13e, les jarretières rouges de 1906, eh bien là, l'effet est obtenu sur la droite de l'image par ces bandeaux jaunes et noirs que nous avons. Parce que l'on voit que le noir fait un peu un encadrement sur le côté et en dessous de la partie jaune et que cette partie jaune et grise reprend d'autres couleurs de la composition, on peut penser que ce tout petit morceau de peinture est, quoi donc? Hein? Mais oui, je vous entends le dire. Oui, c'est un miroir. Voilà, et en jouant ici dans le miroir, il va pouvoir arrêter la composition. Pareil, on retrouvera d'autres fois des miroirs, pas toujours dans le même rôle par rapport à la composition, dans d'autres peintures de Bonnard. 14. Les filles Nathanson, 2010. Nathanson, un collectionneur qui achetait des toiles à Bonnard. Alors là, on retrouve de part et d'autre ces effets d'arrêt de l'image, avec sur la gauche un effet dû à peut-être, on ne sait pas bien ce qu'on doit y voir, mais peut-être est-ce un rideau qui serait coordonné au papier peint que l'on voit se refléter dans le miroir, puisque la fille Nathanson qui est sur la partie en haut à gauche de l'image, on voit qu'elle est devant un miroir, on voit son reflet. Et puis alors, à droite, de part et d'autre, à droite de l'armoire blanche que l'on voit au fond, là, et bien là encore, on a une porte ouverte. Et derrière cette porte ouverte, tout à fait, elle est sombre, hein, et tout à fait sur l'extrême bordure droite, on voit bleu, rouge, jaune, beige, l'ouverture vers une autre porte, vers une autre pièce, je veux dire. Mais cette autre pièce, on n'en sait rien que les tonalités colorées. Ça permet pour Bonnard d'arrêter la composition et en même temps de nous dire. On est dans un espace là un peu en huis clos avec nos personnages, et néanmoins, leur espace de vie ne s'arrête pas là. et on en perçoit juste une petite ouverture par cette fente bleu, rouge, jaune, beige. 15 femmes au bas noir ou le soulier, donc une femme en bas noir est en train de mettre ses souliers, de lacer ou délacer ses souliers, je ne sais. Elle est à sa toilette, hein, on voit la vasque derrière, il y a une fenêtre derrière, elle est sur un siège bas, bon, très bien, mais ce qui est surprenant, c'est de retrouver cette porte ouverte. Alors, on peut penser que c'est une porte, puisqu'on lui voit le chanfrein, si je peux m'exprimer ainsi, qui est légèrement plus clair que le panneau lui-même. Et en bas, on voit un petit vague triangle, pas très bien défini, qui est plutôt verdâtre et qui est l'ombre de cette porte, ombre envoyée depuis, enfin, grâce à la lumière qui arrive de la fenêtre. Et là aussi, bien sûr, la porte vient bloquer la composition. Seulement dans ce cas-ci, par rapport au précédent, on ne voit pas la pièce qui est derrière. L'homme et la femme, alors en plein milieu, un truc bizarre hein, qui est sans doute destiné à ce que on puisse masquer les nudités, c'est-à-dire que si on veut se dévêtir sans être vu par les autres, on va se mettre derrière en paravent, et c'est sans doute ce paravent replié qui est en plein milieu. Alors il se trouve que là, nos personnages sont nus, pas protégés du tout, bon, ils sont dans leur intimité, les chats aussi d'ailleurs avec eux, mais ça n'est pas le paravent qui fait un appui sur le côté de la composition, lui il vient structurer et séparer fictivement le côté homme du côté femme, puisqu'on voit qu'ils sont là autour du lit et qu'il se passe d'autres choses que nous ne savons guère mais que nous pouvons deviner. Mais de part et d'autre, il y a des éléments qui viennent bloquer la composition. Donc nous voyons sur la gauche une ligne gris-bleu-vert là, qui empêche de voir la totalité du lit. Mais sans doute voit-on de la pièce d'à côté. Et monsieur tient, je ne sais quoi, une grande serviette en peignoir, quelque chose comme ça, sa robe de chambre ou en drap, dont on ne voit pas très bien ce que c'est, tellement on en voit peu, mais ça vient bloquer la composition. Donc notre regard se promène entre cette bande verdâtre d'un côté, cette bande blanc, gris-blanc de l'autre, et ça maintient notre attention sur cette scène. 16, une petite aquarelle de Pierre Bonnard, avec des éléments jetés rapidement au crayon, en crayon noir, ces crayons comptés à une mine très noire, sans doute, là, qui permettent de bâtir le bouquet de fleurs, les végétaux, etc., à grands traits, et puis des couleurs qui sont là, jetées. Alors là, on retrouve très simplement les effets de composition avec appui. Dans le haut, vous voyez, c'est très bleu et rouge, sur le côté gauche, avec cet effet aussi en vertical, essentiellement en jaune. Donc ça nous permet de retrouver d'autres couleurs qui sont dans la composition. Et là, ça nous permet de comprendre que, comme plein d'autres peintres avant lui, Bonnard s'attache aussi à faire circuler ces couleurs dans la composition. Et la composition avec appui peut être un moyen de faire circuler la couleur, puisqu'on a en premier plan là, le rouge, qui est sans doute une nappe sur une table, c'est pas bien défini, hein, sur lequel serait posé ce bouquet de fleurs. Si c'est la nappe qui est comme ça devant nous, rouge, rosé, violacé, on retrouve ce côté rouge violacé, hop, tout à fait en haut, comme ça, par petits traits dans l'appui, de la même manière qu'on voit circuler à différents endroits le jaune du bouquet. Alors, 18, là, c'est une gravure de Pierre Bonnard. Ah, non, j'aperçois, là, oui, non, ça, c'est pas une gravure, c'est un dessin à la mine de plomb. En fait, sans doute une mine de plomb très sombre, sans doute assez un crayon assez gras, on va dire. Voilà. Là, vous voyez on retrouve l'effet bloquant avec une ombre d'un côté qui était tout à l'heure celle de la porte dans la scène avec les deux personnages dans la chambre. Là, on a à droite cet effet sombre dont on ne sait pas si c'est une porte ou autre, mais il y a cette verticale sombre. Et de l'autre côté, ben, l'effet du linge qu'on avait quand ce monsieur tenait tout à l'heure un linge gris-blanc. Là, ben, là on a une dame qui, peut-être est-ce qu'elle met sa chemise, qui pend sur son bras. Ça fait un peu une verticale. Mais l'essentiel du blocage de la composition, c'est bien la bande noire à droite. Alors là, vous voyez comment c'est fait, hein. On n'est pas dans la peinture, et il fait ça crayonner en zigzag, 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 et ça permet de bien marquer cet espace-là et de donner une force à cet espace. On s'imagine tout de suite un espace dans lequel serait ce personnage, alors qu'en réalité, on a très peu d'indications. On ne sait pas si on est... dans une pièce, comment elle est faite, etc. Mais on a l'impression qu'on est à l'intérieur. Il y a ça, et puis les deux obliques au niveau des jambes qui permettent de penser que c'est le bas du mur. 20. Portrait de Georges Besson, 1909. Un portrait très classique, hein. C'est beaucoup moins enlevé, beaucoup moins dynamique que le dessin qu'on vient de voir, par exemple, qui était de 1930, ou que le vase de fleurs qui n'est pas daté, qu'on a vu précédemment. Là, c'est une peinture assez classique. Cet effet classique est renforcé par la pose du personnage, son effet, l'effet réflexif de son attitude... le fauteuil d'acajou verni, là, tout ça, c'est très, très bourgeois 1900. Hein. Mais on retrouve les effets de Bonnard avec, sur la gauche, une porte sur laquelle il a rajouté des éléments pour bien, une porte ou un placard, pour qu'on comprenne bien que ça arrête notre regard. Dans la partie haute de ce meuble ou de cette porte, vous avez une bande brun plus foncée là, qui permet de stopper le regard. Vous avez plusieurs verticales à la suite, ce qui nous ramène vers le visage de Besson. Et sur la droite, vous avez cette bande claire là, qui est sans doute l'angle du mur du côté de la fenêtre. Dans le renfoncement de la fenêtre, on pourrait penser. Mais ça, c'est de l'interprétation de qu'est-ce que ça veut nous dire, qu'est-ce que ça pourrait représenter. Et quand je dis ça, je fais sans doute un peu fausse route, pas dans l'explication elle-même, mais dans le fait que l'intérêt de Bonnard, ça n'est pas de nous faire comprendre que oui, s'il y a une fenêtre et que la fenêtre, le renfoncement de la fenêtre est laissé comme ça en plâtre badigeonné en blanc et qui n'est pas recouvert de papier peint. Ça, Bonnard, en fait... Il s'en fichait. Ce qui l'intéressait, c'était de faire cet effet visuel très marqué de blocage de l'image par ce que j'appelle les compositions avec appui. 21. Le déjeuner. Déjeuner, vous voyez le personnage. Bon, très bien. Là, on est une peinture très, très légère. Hein. On voit que, contrairement à d'autres, on voit qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Ici, sa peinture à lui, il est presque passé en transparence. Et donc, sur la gauche, vous avez, pareil, des éléments qui vont faire appui. Mais avec des effets de contraste de couleurs, puisqu'on a une succession de gauche à droite, vert, bleu, marron, qui n'a rien de réaliste, ça renvoie à rien qu'on pourrait imaginer. Mais au moins, le choix de coloris est tellement décidé, tellement vif, que forcément, on voit bien que là, c'est là pour bloquer notre regard, à tel point que la bande bleue est, au niveau visuel, presque aussi importante que le chemisier rouge et blanc de cette femme. Et pourtant, on le voit, hein, le chemisier. Pareil, au niveau des yeux, il y a une horizontale qui permet de bloquer la composition. Et non seulement elle bloque la composition là, mais elle permet, l'un va avec l'autre, hein, les deux fonctionnent en même temps, elle permet de souligner le regard de la femme, puisqu'elle est juste au niveau des cieux. Et donc, il y a une continuité à la fois dans la composition, de manière à regarder, à bloquer notre regard, qu'on n'ait pas envie de s'échapper, mais aussi à souligner, de manière à souligner ce regard. Et puis, les effets de conditionnement de notre regard pour que ce soit bloqué, c'est aussi lié au fait qu'il y a des deux côtés, dans la partie basse, des éléments qui vont être bloquants, panier de fruits à droite, assiette à gauche, dont on ne voit que des morceaux, encadrage qui serait encadrage photographique. Et puis, ce curieux dessous de plat bleu carré que nous avons juste devant nous, l'art, évidemment, il va bloquer le regard d'une manière forte, puisqu'il arrive juste à la limite de la composition. 22. Les frères Bernheim jeunes. Alors, ce sont deux marchands d'art, c'était des galeristes de Bonnard. Ils sont là dans leur bureau, avec l'abondant courrier de tous les artistes qui sont vendus par... dont les œuvres sont vendues par ces galeristes. Donc, ils sont en train de traiter leur courrier. Et on voit comment, là, dans des couleurs qui sont assez typiques de Bonnard autour de 1920, très, très vives, très puissantes, c'est ce qui a fait la notoriété de Bonnard, cette violence de couleurs et ces contrastes forts. Eh bien, on va retrouver les effets avec... un certain nombre de moulures dans l'appartement, là, autour de la fenêtre, dans l'angle, etc. Et ces effets de moulures, d'encadrement de notre regard, c'est souligné par l'encadrement de la peinture que nous avons au fond, sur le mur, au-dessus des frères Bernheim, là, dans ce grand encadrement doré. On a une peinture comme ça, dont on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais on pourrait presque croire, à voir les couleurs qui sont utilisées, du violet, du jaune, etc., que cette peinture, c'est une peinture de Bonnard. Mais en fait, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a plein d'éléments dans celle-ci qui sont des éléments qui viennent structurer la composition. Et à tout niveau que nous regardions cette peinture intitulée « Les frères Bernheim jeunes », on a des éléments qui viennent géométriser l'espace. Alors le thé en 1917, qui est l'image suivante, on est là passé à l'extérieur, mais on est toujours finalement un peu dans un huis clos, on n'est pas tout à fait en extérieur, on peut penser qu'on est sur une terrasse et on aperçoit des arbres, peut-être même des palmiers dehors, là il y a des dames en train de se partager le gâteau, sans doute, sur le coup de 4 ou 5 heures de l'après-midi. Il y a encore une belle lumière d'été. Et un certain nombre d'éléments viennent structurer en verticale l'image. Alors, vous avez quelques rideaux qui permettraient éventuellement de les couper du soleil. On voit à droite, clairement, un rideau un peu jaune, là. Mais il y a aussi des éléments en bas et... pour faire une continuité au bandeau de l'ombre de la nappe sur la table, qui est sur la gauche, nous avons sur la droite un curieux machin sur lequel il y aura à nouveau la signature de Bonnard, dont on ne sait pas si c'est un morceau de meuble, si ça serait l'arrière d'une toile, on ne sait pas ce que c'est. C'est géométrique, on pense que ça a une épaisseur, mais ça ne nous permet pas de comprendre quel est cet objet que Bonnard figure. En fait, encore une fois, ce n'est pas l'objet représenté qui compte pour lui, mais le fait de mettre un élément qui va venir limiter sa peinture d'une manière qui correspondrait à, si je vous disais, comme ça, à l'oral, pensez pas à la peine de regarder plus loin. Alors, l'image numéro 24, la nappe à carreaux rouge de 1910. Alors, on retrouve cet effet de nappe à carreaux qui respecte assez modestement les usages de la perspective. Ça marche à peu près, mais on a l'impression qu'on est très en surplomb. Mais c'est un peu les mêmes effets qu'on avait dans tout à l'heure dans le corsage à carreaux, sauf que là, vu le thème, c'est moins flagrant, c'est moins évident. Donc, à nouveau, on retrouve en animal, là, il y a souvent des animaux, en chat, en chien, qui viennent chez Bonnard, là. On retrouve des éléments bloquants, donc, au fond, là, on a ces effets de moulure blanc sur blanc, là, qui viennent limiter l'espace et bloquer sur le haut. On a une bande orange sur la droite, et en bas, un ensemble de trucs sur la table dont on ne sait pas bien si ce sont des serviettes, des chiffons, des essuies, comme on dit en Belgique, une assiette avec des œufs dedans. En fait, on ne sait pas bien ce que c'est. Tout ça, ça fait quelques petits éléments disséminés sur la nappe et qui arrêtent le regard et qui nous permettent de recentrer le regard sur ce qui se passe au centre de l'image où on va retrouver les mêmes effets colorés, c'est-à-dire pareil, une serviette, une cafetière en pot à sucre, tout ça c'est blanc. Donc on voit que bon, cette dame est en train de saisir un sucre dans son sucrier qu'elle va donner à son chien-chien. Mais derrière cette scène familière, il y a toute l'expérience de la composition de Bonnard. Je dis derrière cette scène, je devrais dire plus exactement autour de cette scène, au pourtour de cette scène. Allez, la 25, eh ben on retrouve en nu, c'est en nu à contre-jour en 1908. Alors là, vous voyez la façon de peindre de Bonnard avec ce pinceau qui virevolte là, qui fait des sinusoïdes pour marquer la transparence et l'opacité en même temps d'un rideau de dentelle qui nous laisse percevoir l'extérieur bleu et jaune, etc. et qui vient marquer ces contrastes. Ça, c'est vraiment intéressant sur sa façon de peindre. On peut regarder sur à gauche, nous avons ce qu'on appelait un tube, c'est-à-dire une baignoire en zinc. Il y a encore de l'eau dedans et on voit le reflet de la fenêtre dedans. On a au fond le nécessaire à toilette. Tout ça, c'est travaillé d'une manière un peu moins virevoltante, mais on voit avec des applications de couleurs translucides, du bleu sur le rose, du blanc cassé sur le gris, etc. Ça, c'est pour vous montrer sa façon de peindre. Ce qu'on aurait difficilement fait à la gouache, c'est pas impossible la gouache, mais il faut un peu plus d'expérience. À l'huile, ça vient plus naturellement. Que vous dire? Eh bien, quand on parle de composition avec appui, on a à l'évidence sur la droite encore un appui. Alors si c'est une porte, elle est curieusement placée derrière le canapé, mais en tout cas, cet élément-là permet de faire appui clairement, à nouveau, et de donner une ouverture. C'est un peu ambivalent comme dans des cas comme celui-ci, puisque ça nous donnerait envie de regarder au-delà. On dit, tiens, il se passe quelque chose. Et en même temps, on ne peut pas. 1928, le café au petit poussé, place Clichy. Si je devrais le dire à la parisienne, au petit poussé. Alors, vous regardez, vous voyez hein, comment c'est là aussi composé d'une manière très géométrique. Je vous laisse regarder, je vous laisse analyser. Vous allez retrouver plein de choses que vous connaissez déjà. Ouais, vous voyez, hein, on a la perspective sur la rue au fond, puis on retrouve cette toile tendue au-dessus de la terrasse, là, avec quelque chose de marqué. Alors, je vous laisse essayer de deviner. Alors, vous avez deviné, vous avez déchiffré. Non, moi, je n'ai pas essayé, en fait. Je vois, si, 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 ça y est. C'est, mais c'est oui, c'est le petit poussé. Eh, mais oui, ce qui est écrit, c'est le petit poussé. Ah, ben, c'est le titre de l'œuvre. Bon, d'accord. Merci, monsieur Bonnard, de nous aider à comprendre que nous étions au petit poussé. Allez, on continue. On continue, 27 portraits du peintre par lui-même, 1945, donc je pense qu'il est dans la collection du musée à Toulouse, hein, dans la fondation de Bemberg. Alors, vous voyez comment dans cet autoportrait, alors d'une part, regardez comment il s'est traité à la japonaise, hein, avec un teint tout à fait jaunâtre, là, et puis les yeux un peu bridés, on croirait un portrait d'un samouraï japonais dans une estampe des années 1850 ou avant. Et alors là, il ne manque pas d'éléments pour appuyer la composition. Alors, en haut, une succession de couleurs, brun, jaune, vert, avant d'arriver au quadrillage bleu du fond. Un rideau bleu foncé sur le côté. Une première partie en bas, en avant-plan, en premier plan, violacé sur la gauche, jaune sur la droite. Ne me demandez pas ce que ça représente, je vous le laisse imaginer. Moi, j'ai ma petite idée, mais si Bonnard peint comme ça, c'est pas pour qu'à chaque fois on fasse de l'explication de texte, c'est aussi pour que notre imaginaire puisse fonctionner. Continuons. Le boxeur, 1931. Alors, ce visage rouge, tuméfié, ça est peut-être ce qui fait penser qu'on est devant un boxeur, en dehors de la position des bras et des mains. Bon, des effets colorés assez hallucinants, on en prend plein les mirettes, on a l'impression qu'on a regardé trop le soleil en face, tellement on a du jaune et du blanc qui nous sautent aux yeux, et puis cette figure-là, toute rouge, maculée de sang ou on ne sait pas quoi, ou de bleu ou de croûte, cela. Et tout d'un coup, une zone de calme bleue, un peu de fraîcheur qui amenait sur cette composition avec appui, par cet appui bleuté que nous avons sur la droite. Donc là, il utilise aussi le jeu de couleurs pour un peu calmer les choses, non seulement pour arrêter le regard, mais aussi pour amener un peu de sérénité dans cette image qui, par ailleurs, est assez violente. Violente pour la peinture de Bonnard, hein, bien sûr. Le 29e, c'est à nouveau un autoportrait. Donc, l'autoportrait, ben, il le fait en se regardant dans un miroir. Est-ce que c'est dans la salle de bain? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a des bouteilles qui sont devant le miroir qui lui permettent de se regarder. Il y a un placard au fond, sans doute. Voilà. Placard blanc-jaune, là. Mais vous avez juste la bordure de ce miroir qui vient faire un trait gris-bleu, là, sur la droite, et qui vient limiter encore une fois l'image. Tac, ça s'arrête ici. Il s'est regardé dans le miroir, il a cadré juste au bord du miroir. Là. Alors sa verticale n'est pas totalement parfaite. Et son horizontale du miroir, encore moins. Sa bouche, il y a un écart, hein. Il ne fait pas ça à la règle, Bonnard. La question, elle n'est pas là. Ce n'est pas un peintre de la géométrie, même s'il va utiliser, on le voit bien ici, des effets de géométrie avec les panneaux de son armoire derrière. En fait, il les bouscule, il les fait pencher d'un côté ou de l'autre. Ça lui permet de structurer la peinture, mais sans avoir recours à une géométrie bien tracée, on n'est pas en cours de géométrie mathématique. Composition avec appui, encore une fois, dans ce dessin nu debout, avec la tête de Bonnard par lui-même, de 1930. On voit au premier plan le peintre qui regarde dans un miroir le modèle qu'il a embauché pour poser, et on retrouve la totalité de ses effets, c'est-à-dire le miroir avec sa délimitation, avec son cadre fin, le papier peint autour du miroir est évoqué par quelques petites taches de crayon là autour. Le modèle au fond qui est contre une porte, laquelle porte nous permet d'apercevoir une pièce derrière dans laquelle ben, on ne sait pas ce qu'on doit y voir. Est-ce que c'est du mobilier? La question n'est pas là. Chez Bonnard, la question n'est pas forcément d'identifier tout ce qu'il nous montre, mais de poser une composition qui nous permette de bien structurer notre façon de regarder son œuvre peinte. 31, un panier de fruits. Panier de fruits, ben là, vous voyez, c'est dans les angles qui est posé, que sont posés quelques éléments colorés qui nous permettent de circonscrire, de limiter l'image, et ça nous ramène, bien sûr, vers le panier de fruits. La particularité ici, c'est qu'on est dans le biais, on n'est pas sur des horizontales ou des verticales comme souvent. Donc voilà, ça, vous voyez, c'est un petit travail, c'est très simple hein, comme peinture. Bah, c'est tout à fait des choses qui seraient possibles de réaliser avec des élèves dans une classe. Ça, c'est la portée de tout un chacun. Ici, Nature morte aux fruits, vers 1935, hein, où on a à nouveau ces effets divers qui viennent arrêter en haut, à droite, en bas, avec des éléments qui sont des fois en vertical, des fois dans le biais, et qui ben, limitent notre regard. Alors, ce qui se passe au premier plan, alors là, vraiment, ça va nous interroger parce que c'est très présent. Et donc là, cette fois-ci, ce que Bonnard nous met au premier plan pour arrêter sa composition, en termes d'intérêt visuel, ça va le disputer au panier de fruits lui-même. Notre attention est prise aussi par ce premier plan, sauf qu'on ne va pas pouvoir distinguer exactement de quoi il est constitué ce premier plan. Alors que si on regarde un peu plus au fond, évidemment, on pourra voir un panier, des fruits, dans ces fruits, sans doute à droite une poire, des raisins, etc. Le broc au pot-à-eau sur la droite, etc. Alors la roulotte à Vernonnet de 1930 encore, là on a d'autres solutions pour limiter. Et un élément dans le biais, c'est la rampe de l'escalier. Alors l'escalier, on l'aperçoit à peine, mais la rampe vient encore une fois bloquer. Mais c'est en biais comme on a vu rarement, mais on a vu précédemment dans certaines des œuvres de Bonnard. Là, c'est très clair, mais ça nous prend 20% de l'image, hein, cette partie-là. Et en même temps, comme il y a une verticale pour tenir cette rampe, eh bien, Bonnard en a profité pour continuer avec un tronc d'arbre et assurer un blocage sur toute la verticale, toute la hauteur, avec donc la rambarde, enfin, la verticale de la rambarde de l'escalier, puis le tronc d'arbre, puis les branches de l'arbre au-dessus, et hop, sur la droite, il s'est assuré que en même temps, on allait regarder à cet endroit-là, donc c'est un point focal, comme on dit, mais en même temps, on n'essaye pas d'aller plus à droite. Notre regard repart naturellement sur le reste de la composition. Notamment parce que on a cet horizon de l'autre côté de la rivière où on voit le ciel blanc se refléter là, et que c'est au-delà de la rivière qui est brun puis vert. Tout ça ramène le regard sur la gauche et sur les arbres de gauche, qui eux-mêmes ont des verticales. Enfin, bon, tout le jeu de lignes qui renvoie le regard constamment. L'image suivante, l'atelier au Mimosa, commencé en 1936, c'est sans doute encore encore travaillé en 1946 à la fin de la vie de Bonnard. Bonnard, il reprenait des fois, longtemps après, des tableaux dont il n'était pas entièrement satisfait. Et il les retravaillait, et là, je ne sais pas ce qu'il aura rajouté en 1946. Il y a peut-être des documents visuels, des photos, ça arrive chez certains peintres, qui permettent comme ça de documenter les différentes étapes d'un tableau qu'ils ont repris des jours et des jours. C'est le cas, par exemple, si vous voulez voir un exemple de ce côté-là, c'est le cas pour une peinture d'Henri Matisse qui s'appelle « La blouse roumaine ». Et on connaît aujourd'hui la version finale de la blouse roumaine, mais Matisse s'est intéressé vraiment au changement qu'il pouvait opérer dans cette peinture, et il en a fait plein de photographies à chaque stade de l'évolution. Et bon, ce sont des photographies noir et blanc, hein, on est dans les années 40, mais ça nous permet de repérer comment il faisait avancer une peinture. Mais quittons là Matisse, qui n'était pas le sujet du jour, et revenons à Bonnard. Donc l'atelier au Mimosa, voilà, on retrouve le même effet de Rambarde, sauf que là on est sans doute sur la mezzanine de l'atelier, et on jette un regard plongeant sur la partie basse de l'atelier et la grande verrière qui donne sur l'extérieur, la nature, le village au loin, etc. Et là, bien sûr, alors les éléments d'appui à la composition sont multiples. L'encadrement de la fenêtre, le mur rose à gauche, la rambarde en bas. On en oublierait presque de regarder ce visage qu'il y a en bas à gauche, tellement il passe inaperçu par rapport à tout ce qui peut se passer d'autre dans cette composition. Et le fait que ça soit la dernière chose qu'on repère, ce visage en bas à gauche, eh bien c'est aussi en effet de cette composition avec appui. Parce que les appuis qu'il y a et l'effet limitant de la rambarde qui est dans le biais et la verticale de gauche avec cette espèce de rideau rangé là et qui contraste avec le bleu qui est juste à côté à droite et puis avec le pan de mur rose, tout ça, ça fait des choses qui vibrent tellement et qui nous ramènent en même temps tellement vers la partie plus animée que l'on voit de l'autre côté de la fenêtre, de la verrière, que bah, du coup on a oublié de regarder ce qu'il y avait en bas de la partie rose et ce visage. Alors quand j'en parle plusieurs fois, ça devient évident, mais au premier coup d'œil, on l'avait sans doute pas vu. La 35e image, c'est la fenêtre ouverte. On reprend un peu le même genre d'effet, sauf que les choses sont inversées, mais on a toujours une limitation avec des éléments horizontaux, verticaux, un élément dans le biais, des effets de contraste coloré, jaune-bleu sur le bleu-turquoise même, hein, doré-bleu-turquoise sur la droite, et brun-bleu sur la gauche. Tout ça, ça nous centre sur cette fenêtre, ça s'appelle la fenêtre ouverte. Et ce qu'on voit au-dessus, là, le ciel, la nature. Et là encore, comme dans la peinture précédente, eh bien, le regard ne va pas très directement vers ce qui se passe dans les angles, et cette fois-ci, c'est dans l'angle à droite, en bas à droite, que nous avons un personnage et un chat. Une chaise et un pot de fleurs de l'autre côté. Donc, les mêmes effets, avec les mêmes recettes. La composition avec appui, on voit là que ça permet de limiter le regard à la zone que veut nous montrer en priorité l'artiste, et ça lui permet en même temps de mettre dans les zones vers lesquelles ne vont pas converger nos regards des éléments complémentaires qui vont nous renseigner sur le lieu de vie, les personnes qui peuvent vivre là. On voit que c'est habité, mais on ne le voit pas au premier regard. Le premier regard, il va vers la fenêtre ouverte qui donne le titre. Ça n'était pas Madame Bonnard dans sa chaise longue devant la fenêtre ouverte. Non, c'était pas ça le sujet. ni Madame Bonnard avec son chat. Alors la 36e image, c'est l'intérieur de la maison du peintre au Canet. Donc, là, nous avons tous les éléments avec le rideau bleu qui contraste beaucoup avec le jaune de la peinture sur les murs de cette maison. Et puis, sur la gauche, un volet. Et puis, un empilement de couleurs sur le bas. Enfin, vous voyez comment il travaille, hein, on l'a déjà vu. Là, ça prend vraiment en effet à nouveau très géométrique. Hein. On peut encore penser à ces peintres géométriques comme Mondrian, mais avec par-dessus du figuratif, par-dessus des jeux colorés très libres. Voilà. Là, il y a de quoi s'amuser. Et donc, encore une fois, si on s'adresse à des gens qui vont être enseignants et qui auront à mener des ateliers dans un milieu scolaire, eh bien, à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'amener les élèves à jouer des couleurs indépendamment de ce qu'ils vont avoir sous les yeux. Non seulement jouer des couleurs, mais aussi jouer des plans de ce qu'ils voient, de rajouter des éléments qui vont permettre de composer de cette manière-ci. Ensuite, une autre vue au Canet, hein, intérieur au Canet, commencé en 1948, fini en 1943. Hein, le précédent était de 1945. Donc on retrouve ces éléments-là. Là, avec la particularité que nous avons bien deux espaces limités par un jeu de portes, mais avec des éléments un peu trompeurs sur les jeux de perspective, des éléments un peu surprenants dans les jeux colorés qu'il y a sur les différents sols des différentes pièces. Et là, je vous laisse promener votre regard, voir tout ce qu'il peut y avoir comme effet de miroir, de percée, de fenêtre d'un côté, ouverture de l'autre, etc. Et tous ces jeux dans lesquels, Bonnard s'amuse à rajouter du contraste coloré avec ses bleus verts, son violacé au fond, ses en haut au fond, là, ses jaunes, ses blancs, ses rosés, tout, hop, il s'amuse. Et encore une fois, la question n'est pas d'être dans un réalisme coloré, mais ça, on l'a compris depuis longtemps, Bonnard n'est pas un peintre réaliste et surtout pas du réalisme de la couleur. La nature morte, qui est notre dernière image, je vous la laisse et vous retrouverez les éléments qui nous permettent habituellement d'avoir ces structurations dans les compositions avec appui. Ici, avec un jeu surajouté de hachures dans la partie basse, de hachures qui sont bien sûr en contraste coloré, comme il aime bien le faire. Voilà, je vous remercie. Il me semble que là, nous avons fait le tour de ce que l'on pouvait constater dans la peinture de Bonnard et ses jeux de composition avec appui. Je vous engage donc à vous y exercer vous-même et puis éventuellement à amener vos élèves à se confronter à ce genre de choix de composition grâce aux exemples que le merveilleux maître Pierre Bonnard nous offre. Voilà. Merci de votre écoute. Au revoir.